Et on débute avec le journal de Benoît Bouscarel que je salue. Bonjour,
bonjour
Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Au Liban, la violence gagne la rue. Le mouvement de contestation contre la corruption né en octobre dernier se poursuit et se tend. Ce week-end et hier soir encore, des affrontements très violents ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Reportage à Beyrouth dans un instant.
Aux États-Unis, une manifestation prévue aujourd'hui à Richmond, en Virginie, suscite l'inquiétude des autorités et des riverains. Ce sont des suprémacistes, militants anti-gouvernementaux et néo-nazis qui défileront pour défendre le droit d'être armé.
En France, à la veille de l'examen de la loi bioéthique par le Sénat, nous reviendrons sur la manifestation d'hier à Paris des opposants à la PMA sans père. Reportage dans le cortège de Thomas Larabie.
Et puis nous évoquerons la réforme du bac avec le début à partir de ce matin des épreuves en contrôle continu.
Des épreuves sous la menace d'appel au boycott par les enseignants, nous l'entendrons. À 7h12, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, un quart des enfants vivent avec un seul parent. Qui sont les familles monoparentales? On en parle dans quelques instants avec Laurent Toulmont, il est démographe et chercheur à l'INED.
Tout à l'heure. Au Liban, balles en caoutchouc et gaz lacrymogène contre jets de pierre. Le mouvement de contestation sur fond de revendications sociales et politiques a pris un tour depuis quelques jours de plus en plus violent. Dans le courant du week-end, plus de 500 personnes ont été blessées dans des affrontements inédits depuis le début du mouvement, il y a maintenant 3 mois. À Beyrouth, hier soir, des milliers de manifestants se sont une nouvelle fois rassemblés dans le centre-ville, à l'entrée d'une avenue menant au Parlement. Reportage de Clotilde Bigot.
Ils étaient des milliers dimanche soir réunis face à un cortège policier et militaire important dans les rues du centre-ville de Beyrouth. Les violences de la veille ne les ont pas intimidés, le ras-le-bol reste intact et le peuple continue de se soulever contre cette classe politique qu'elle juge méprisante, comme l'explique Tara.
On a toujours eu les politiciens d'un côté qui vivent leur belle vie, qui profitent et nous on est là à essayer de survivre et on arrive à un point où on ne peut plus le faire.
La prochaine étape pour cette classe politique, c'est de former un gouvernement. La rue souhaite un gouvernement composé de technocrates qui peuvent sortir le Liban de la crise économique. Pour Mohamed, venu en groupe, l'équation est simple.
Si le prochain gouvernement est formé de technocrates, on quittera la rue. Si c'est un gouvernement technopolitique, on restera dans la rue. On ne partira pas.
Mais le gouvernement est une première étape. Le problème est plus large et englobe tout. Aram, lui, l'assure, il faut tout changer.
Et même si on a le gouvernement, c'est le système juridique aussi qu'on doit vraiment arranger. C'est le système entier. Donc ça va continuer. Je suis sûr que ça va continuer.
Les manifestations continuent et la violence des forces de l'ordre qui utilisent notamment des balles en caoutchouc fait grimper le nombre de blessés, plus d'une centaine de personnes selon les associations sur place. La violence, elle, ne semble pas prête de s'éteindre.
La conférence de Berlin pour la Libye s'est achevée hier soir sur un appel au renforcement de l'embargo sur les armes imposé au pays et sur l'appel à une solution politique, alors même que sur le terrain, les lignes de front au sud de la capitale, Tripoli, semblaient encore actives. Pas d'embargo sur les armes en vue. Aux États-Unis, en ce Martin Luther King Day, jour férié dans le pays, pour célébrer la date anniversaire de la naissance du révérend assassiné en 68, tous les regards seront tournés tout à l'heure vers la ville de Richmond, en Virginie. 2 ans et demi après, un scénario à la Charlottesville est redouté par les autorités locales et par les riverains, alors qu'un défilé pro-armes à feu doit attirer à Richmond suprémacistes, néo-nazis et autres miliciens anti-gouvernement, avec les encouragements tacites de Donald Trump lui-même. À Washington, Loïc Loury.
Votre second amendement est très sérieusement attaqué en Virginie. Voilà ce qu'il arrive lorsque vous votez pour les démocrates. Ils prendront vos armes. Le tweet est signé Donald Trump, qui jette donc de l'huile sur le feu avant cette marche particulièrement scrutée. 10 000 personnes, en effet, sont attendues à Richmond, ancienne capitale confédérée, parmi lesquelles suprémacistes et miliciens anti-gouvernement. Ce défilé annuel, organisé par un lobby institutionnel, a vu ses effectifs gonflés, réaction à la volonté des démocrates qui domine depuis peu cet état particulièrement permissif de renforcer le contrôle sur les armes. Résultat, le spectre d'un nouveau Charlottesville plane sur Richmond, état d'urgence décrété, interdiction des armes aux abords du Capitole où se déroule le défilé. De nombreux habitants assurent eux qu'ils resteront cloîtrés, aucune contre-manifestation n'est prévue. Restez chez vous, prévient la police locale. L'arrestation, enfin, par le FBI de plusieurs membres d'un groupe néo-nazi n'est pas pour rassurer. Il prévoit prévoyaient de participer au rassemblement avec leurs armes.
Toujours aux États-Unis, c'est demain que doit s'ouvrir à Washington le procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat américain. Le 45e président des États-Unis va faire face à deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. En Belgique, depuis la semaine dernière, c'est un procès inédit qui a lieu devant la cour d'assises de Gand, celui de trois médecins accusés de ne pas avoir respecté les conditions légales avant d'euthanasier une patiente souffrant de troubles psychiatriques. Ils sont accusés d'empoisonnement et risquent la réclusion à perpétuité. À Bruxelles, Johanna Hochstein.
Sinonis, âgé de 38 ans, est euthanasié en 2010 en raison d'un état psychiatrique dégradé. Un an plus tard, une partie de sa famille porte plainte. Elle reproche au médecin qui a administré la dose mortelle, ainsi qu'aux généralistes et aux psychiatres qui ont donné leur feu vert à l'euthanasie, une décision hâtive. Selon les plaignants, tout n'a pas été fait pour soigner la jeune femme. Tinonis souffrait depuis une vingtaine d'années de troubles psychiatriques sévères avec plusieurs tentatives de suicide. Elle avait donc déposé une demande d'euthanasie, mais deux mois avant sa mort, un nouveau diagnostic est posé et conclu à une forme d'autisme. Selon la famille qui a porté plainte, une autre forme de traitement aurait alors dû être proposée. En Belgique, l'euthanasie est dépénalisée depuis 2002. Un patient qui fait état de souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportable et inapaisable peut y avoir recours. Dans ce procès, c'est donc l'aspect inapaisable et le caractère incurable du mal qui vont être questionnés. Une partie de la famille de la jeune femme reproche aussi au médecin qui a posé l'acte une forme de négligence. Ce médecin aurait notamment demandé au père de Tinonis de tenir l'aiguille dans le bras de sa fille le temps d'aller chercher un pansement.
Johanna Hochstein. En France, à la veille de l'examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une nouvelle manifestation d'opposants à la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes s'est déroulée à Paris. 26 000 personnes ont défilé dans le calme entre le pont de l'Alma et la place de l'Opéra. Un reportage dans le cortège de Thomas Larabi.
Beaucoup de familles sous les drapeaux et les slogans choc, liberté, égalité, paternité, au nom du sperme ou encore papa outé.
Une mère, elle aime pas moins, elle aime pas plus, mais elle aime différemment.
Marie-Agnès est venue de Reims pour manifester.
L'enfant a besoin d'un père pour se construire et qu'on ne me dise pas que l'oncle, l'ami, le parrain, le grand-père, ça va remplacer le père, c'est pas vrai.
Le collectif Marchons Enfants regroupe une vingtaine d'associations, dont la Manif pour tous. Sa présidente Ludovine de la Rochère est farouchement opposée à l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, mais ce n'est pas le seul reproche qu'elle fait au projet de loi bioéthique.
Il y a aussi dans ce projet de loi de bioéthique l'ouverture de la conservation des embryons et des gamètes pour des établissements à but lucratif. Alors ils ne sont pas tellement évoqués, mais en fait, si on étend la PMA à des personnes qui, pour 100% d'entre elles, auront besoin de gamètes, alors on va rentrer dans l'achat des gamètes, on va rentrer dans la marchandisation humaine, et ça n'est pas acceptable, c'est une question de dignité de l'être humain, tout simplement.
Pour de nombreux manifestants, cette ouverture de la PMA est un prémisse à la GPA, la gestation pour autrui, qu'ils refusent. Un nouveau rassemblement est déjà prévu le 8 mars prochain.
L'entrée en vigueur du contrôle continu pour les épreuves du bac. À partir d'aujourd'hui, plus de 520 000 lycéens en première doivent être confrontés au premier sujet en langue vivante et histoire-géographie pour la filière générale et en maths pour les sections technologiques. Mais les appels au boycott de ces épreuves E3C ont été entendus ces derniers jours de la part d'enseignants et de syndicats qui estiment ne pas être prêts pour la mise en place de ce nouveau bac. Au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, samedi, de premières épreuves ont d'ailleurs dû être annulées. Écoutez Willy Pelletier, sociologue à l'université de Picardie, qui estime que cette réforme va créer ou renforcer les inégalités entre élèves.
Qui va en histoire-géographie voir les salles d'égyptologie au Louvre avec son papa ou sa maman? Certainement pas les élèves, par exemple, de Picardie. Moi, j'enseigne à l'université de Picardie et je peux vous assurer qu'on en est très très loin. Et donc, il y aura des bacs locaux et en ceci, une inégalité locale qui redoublera l'inégalité sociale. On sait très bien que la culture générale, c'est presque ce qui ne s'apprend pas, si ce n'est ce qui s'apprend en permanence dans les familles, dans les dialogues, dans les relations informelles et par définition ce qui est le plus discriminant. Les milieux populaires ont beaucoup de culture, mais c'est pas la culture que légitime l'école et que sanctifie l'école. Donc pour acquérir des savoirs et des savoir-faire scolaires, il faut du temps, il faut de la méthode, Il faut laisser les enseignants assurer leur mission, et leur mission est de pouvoir avoir le temps d'apprendre, de faire acquérir des connaissances critiques. C'est ce qui est interdit avec ce bac, qui nous place dans une urgence permanente du bachotage permanent. C'est l'école elle-même qui est détruite. C'est l'école elle-même que brise le ministère de Jean-Michel Blanquer. Et c'est triste, très triste.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Un nouveau procès lié au terrorisme islamiste débute aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, avec encore une fois plusieurs absents, dont certains supposés morts ou sous le coup d'un mandat d'arrêt. Mais le principal accusé, lui, sera bien là. Mourad Fares, c'est une ancienne figure du recrutement des jeunes djihadistes français dans les années 2013 et 2014. Florence Turme.
Son arrestation remonte au mois d'août 2014 en Turquie, arrestation suivie rapidement d'une remise aux autorités françaises. Mourad Fares aura passé une année en Syrie, parti de Grenoble en voiture avec trois autres compagnons, direction Alep, le fief du groupe État islamique. Il affirme n'avoir jamais participé à des combats, seulement assuré des surveillances et appris le maniement des armes. Il affirme surtout s'être rapidement désolidarisé de l'organisation pour rejoindre un autre Français, le très influent Omar Diaby, à la tête d'un groupe affilié au front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. On reconnaît sa voix sur les images des vidéos d'embrigadement réalisées par le même Omar Diaby et largement diffusées sur les réseaux sociaux. Mais son propre rôle de recruteur se situe aussi avant son départ pour la Syrie. On retrouve son nom dans plusieurs dossiers sensibles. La filière de Lunel, cette petite ville de l'Hérault qui a vu une vingtaine de ses jeunes partir pour le djihad, ou encore celle de Strasbourg, cet autre jeune qu'il a rencontré à plusieurs reprises pour les aider à quitter la France. Depuis son incarcération, Mourad Fares semble avoir adopté une posture de repenti sans manifester un quelconque prosélytisme en prison. Il se dit même prêt à collaborer avec la justice, avec, à l'appui de ses déclarations, une lettre rédigée en octobre 2014 dans laquelle il alertait les autorités d'un risque d'attentat sur le sol français.
Florence Sturm, la météo avec de fortes précipitations pluvieuses et neigeuses attendues à partir d'aujourd'hui sur le golfe de Lyon, entre Catalogne et Corse. Le cumul de neige sur les Pyrénées orientales pourrait être très important dans les jours prochain. Nuages bas ce matin sur la France, éclaircies et temps frais dans la journée.
Merci Benoît Bouscarel.